Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Personnel est prévenu. On porte en vitesse Pierre dans la salle d'opération d'urgence. Pendant ce temps, Antoinette est à l'accueil, faire les papiers. Puis le directeur de la clinique, qui est cette année un jeune homme de 35 ans, grand, mince, blond, costume gris clair, va vers elle et lui dit « Bonjour, vous êtes la famille Borch ?» Les parents font « Oui ». Tu dis oui. Le médecin leur dit, j'ai étudié les dossiers de votre fils et mari grâce aux fichiers qu'on m'a envoyés par ordinateur. Nous savons comment le soigner et nous avons tout préparé à l'avance. N'oubliez pas, c'est que nous sommes la clinique la première du monde avant l'hôpital américain. Auguste dit à Antoinette, vous voyez bien que nous avons bien fait de l'emmener ici. Le directeur lui dit, nous sommes en train, c'est de préparer l'opération. Cela ne sert à rien que vous restiez ici. Revenez demain matin. Et il les laisse. Le père dit, rentrons. À la sortie de la clinique, Auguste dit « Ma voiture nous attend, j'ai tout prévu. » Sa femme lui dit
« Il est formidable !»
Antoinette ne sait que faire, elle se sent seule et gênée au milieu de ses gens. Une belle Rolls noire avec chauffeur. Le chauffeur ouvre la portière arrière. Les parents entrent dans la voiture. Antoinette reste à attendre. Amélie lui dit
« Venez ma chère !» Vous n'allez pas rester ici jusqu'à demain matin.
Elle entre dans la voiture, le chauffeur ferme la portière. Et il rentre lui-même dans la voiture et la met en route.
Ah !
Antoinette a l'impression d'être prisonnière. Direction Paris. La voiture file dans un Paris lugubre et sale. Il fait gris comme à Lyon. On dirait qu'elle est sortie d'une bataille. Chaussée défoncée, meubles dégradés, la tour Eiffel, il manque le dernier étage, l'Arc de Triomphe est à moitié démoli. Il ne reste qu'un pied. Notre-Dame a perdu ses tours et son toit. Les parents de Pierre habitent le quartier de l'île Saint-Louis. Beau quartier et le plus vieux de Paris. Ils logent dans un immeuble qui fait l'angle à un carrefour face à Notre-Dame. Un bel immeuble bourgeois avec des belles sculptures dessus, des moulures, je veux dire, et qui a 5 étages. La Rolls va s'arrêter devant l'immeuble.
Fort sort de voiture et va leur ouvrir la porte. La portière de la voiture. Ils sortent de voiture. Antoinette est tout émue. Auguste dit,
c'est vrai. C'est ici que nous habitons lorsque nous sommes à Paris. N'y jamais venu, je crois.
Elle fait non de la tête.
Il lui a posé cette question, c'est pour lui démontrer qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille.
Ils entrent dans l'allée. Par une porte en verre, grillagée. Grand hall d'entrée, marbre sur le sol et au mur, marbre rose. Lustre cristal au plafond. Auguste les mène à l'ascenseur.
Vieil ascenseur ouvert. Il y a Antoinette. Nous sommes au 5e étage.
Arrivés au 5e étage, ils sortent de l'ascenseur.
Auguste lui dit, c'est notre porte, qui est celle de droite. Il y va. Seul. La porte s'ouvre, c'est la bonne, avec un petit bonnet sur la tête, elle est maigre, habillée en bonne. Bonne les fait entrer, Amélie dit à Antoinette,
entrez ma fille.
Auguste lui dit, c'est votre pied à terre, la bonne va vous montrer votre chambre.
La bonne lui dit, si vous voulez me suivre, madame.
Et elle suit la bonne. Long couloir, large, tapissé, tapisserie et boiserie claire. Il y a une grande salle à manger, un salon, 4 chambres, un bureau, et au fond de l'appartement, une porte qui donne au service cuisine. Cellier, lingerie. Les chambres des domestiques. L'appartement est meublé Louis XV. Parquet au sol et marbre. Les teintures et tapisseries sont claires. L'immeuble appartient aux Bosch. Ils l'ont loué. Antoinette Genet suit la bonne.
Elle ouvre la porte du service.
Un long couloir défraîchi qui mène au service. La bonne ouvre une porte et dit « Votre chambre, madame. » Antoinette entre. C'est une petite pièce rectangulaire, propre, avec collée à une place en métal, une table de nuit en bois blanc, une armoire à une porte en bois blanc aussi, une chaise et une petite table. La tapisserie est vert clair. Il y a une fenêtre qui donne sur une cour, du lino à terre. Antoinette pose sa valise sur la table. La bonne lui dit, la douche est dans le couloir, deuxième porte à droite. Bon, eh bien je vous laisse. Antoinette lui dit, merci. Et la bonne la laisse. Antoinette décide d'ouvrir sa valise. Demi-heure plus tard, elle est assise sur sa chaise. On frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Madame, vous pouvez. On vous demande pour le dîner. Bien, j'arrive. Elle se lève et suit la bonne, qui l'amène à la salle à manger. Ses beaux-parents déjà assis à table, une grande table ronde. Amélie lui dit, venez vous asseoir ici, ma fille, à côté de moi. Antoinette va s'asseoir à gauche d'Amélie. Amélie dit à la domestique, vous pouvez servir le dîner. Bien, madame. Auguste demande, j'espère que votre chambre vous plaît. Antoinette lui dit, « Oui, monsieur. » Il demande à sa femme, « Elle a quelle chambre ?» Amélie lui dit, « Au service, pour qu'elle soit à son aise. »
« Ah, bon ?» Elle lui dit, « Non, oui, quoi ?» Elle touche ses épaules. Elle dit à Antoinette, « Nous recevons beaucoup et cela vous gênerait. Vous comprenez, c'est que nous avons un rang à tenir. » Notre fils s'est marié avec vous. C'est un fait, mais c'est tout. Antoinette comprend qu'elle n'est réellement tolérée, mais pas admise dans la famille. Elle dit à Amélie,
oui, bien sûr, madame, mais si vous voulez, je peux loger à l'hôtel.
Amélie lui dit furieuse, sûrement pas. Si on la prenait, ce serait une catastrophe. Que penseraient nos amis que notre belle-fille habite à l'hôtel?
Après avoir pourri notre fils, vous voulez déshonorer la famille.
Mais non, je ne vois rien du tout. Et je n'ai pas pris votre fils. C'est lui qui est venu à moi.
Lily lui dit, bon, eh bien, passons.
Augustine, demain, nous allons à la clinique. Vous venez avec nous.
Amélie lui dit,
ne la force pas. Il nous faut être très peu nombreux. Juste les membres de la famille.
Antoinette lui dit,
mais je suis sa femme. Je viendrai, bien sûr.
Amélie lui fait,
comme vous voudrez, ma fille.
Le repas, Antoinette est retournée à sa chambre et les parents au salon. Ils se sont assis.
Je lui dis, tu vas un peu fort.
Elle lui dit, si tu veux qu'elle s'en aille, il faut ce qu'il faut.
En fin de matinée, ils sont allés à l'hôpital. Le médecin qui s'occupe de Pierre, un homme de 40 ans, grand, mince, châtain, visage très sympathique, habillé d'une blouse blanche sur un costume gris, leur dit dans son bureau, oui, il les a fait asseoir.
Nous avons ausculté et étudié le corps de votre fils. Après décision, nous pensons que nous pouvons, éviter l'hémorragie, stopper et endormir le virus en injectant dans le corps de votre fils un médicament. Cela nous éviterait l'opération.
Auguste demande, est-ce que le cerveau a été touché? Aura-t-il des séquelles?
Le médecin lui dit, je ne le pense pas, en tout cas, ça ne se verra pas.
Antoinette demande, et quelle séquelle pourra-t-il avoir?
Tous la regardent surprise. Il l'avait complètement oublié. De quoi elle se mêle, celle-là?
Saint lui répond, vu où le cerveau, disons, a été attaqué, mais plutôt l'endroit où le virus a voulu entrer, des conséquences de caractère. Il peut, si il avait été touché, changer de personnalité, mais d'une façon minime, vue de l'extérieur. Son moi intérieur, oui. Je dis bien si. On ne sait pas. Nous le verrons peut-être un jour.
Amélie lui dit, mais mon fils sera toujours très bien, n'est-ce pas, docteur?
Si c'est vous qui le dites.
Auguste demande, alors, vous le gardez pour les soins combien de temps?
Le docteur lui répond, peut-être 15 jours ou 1 mois.
Antoinette demande, il reprendra ses esprits quand?
Auguste hausse ses épaules.
Le docteur lui répond, dès que les médicaments feront effet. Ces médicaments sont une exclusivité, je ne tourne qu'un. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Il se lève et les raccompagne jusqu'à la sortie de la clinique.
fois dehors, ils entrent dans la voiture.
La voiture en route, Amélie dit.
Ce qu'on a bien fait, c'est de l'emmener ici. Ils sont à la pointe du progrès. C'est pas comme ces cliniques du fin fond de la France. En le laissant là-bas, vous l'auriez tué, ma pauvre amie. Il l'aurait charcuté.
Il y en a pour 15 jours, un mois. Antoinette se demande si elle ne ferait pas mieux de prendre une chambre à l'hôtel. Rester un mois avec ses beaux-parents lui paraît insupportable. Oui, insupportable. Du soir, elle leur dit, puisque l'hospitalisation va durer plus longtemps que prévu, je crois qu'il serait bien de me loger.
Amélie la regarde bien et lui dit,
cela va vous faire des dépenses. Feriez mieux, c'est de rester chez nous.
Antoinette se dit que si elle s'en va, elle risque de perdre père. Sa mère va le liguer contre elle. Elle lui dit,
non, je préfère. Et mon devoir est d'être près de mon mari.
Amélie lui dit,
votre mari, dans l'état où il est, n'est pas bien. Il a besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. C'est d'une mère dont il a besoin.
Amélie lui dit, je suis sa femme. Et je tiens à rester près de lui.
Comme vous le voudrez, ma fille. Faites, faites. Si on vous avait... Écoutez, laissez faire. Votre mari serait en bouillie. Mon Dieu, mon pauvre Pierre, Antoinette dit, je reste.
Antoinette reste dans sa chambre et ne voit pas ses beaux-parents que pendant pour les repas. Tous les jours, elle va voir son mari
Elle y va seule, puisqu'on ne l'invite plus à y aller. Elle prend un taxi. Pierre se rétablit petit à petit. Il reprend conscience. Voit, entend, mais ne peut encore parler parce qu'il est très faible. Mais semble reconnaître sa famille, sa femme. Antoinette est heureuse et se dit qu'ils vont pouvoir revivre comme avant. Les jours passent. Après-midi, ils sont tous les trois près du lit. Dit « Maman !» Amélie, fière et heureuse, l'embrasse au front. Elle lui dit « On n'a qu'une mère !» Antoinette se penche. Elle lui dit « Bonjour mon chéri !» Il la regarde surpris. La mère lui tient la main fièrement. Antoinette, triste, lui dit « Tu ne me reconnais pas ?» Amélie haut ses épaules et lui dit « Vous me voyez bien, quelle question !» Antoinette a envie de pleurer. Amélie serre très fortement la main de son fils. Antoinette lui dit « Je suis ta femme ?» Il cherche et dit « Oui, ma femme. » C'est mieux que rien. Elle se penche et l'embrasse. Amélie est fière. Encore à la clinique pour finir les soins et reprendre des forces. Le médecin leur dit dans son bureau, il peut partir, mais il faut qu'il se retape, qu'il ait un endroit calme pour qu'il puisse se retrouver, qu'il ait de bonne nourriture, promenade, repos. Amélie lui dit, « Nous avons tout ce qu'il faut, notre château. » Antoinette lui dit, il serait peut-être mieux en maison de repos, où il y a du personnel important et compétent. » Amélie la regarde bien et lui dit, « Mais nous embaucherons tout le personnel qu'il faudra, ma fille. » Elle dit, « Eh bien, mais c'est très bien. » Demain après-midi, dans la chambre de Pierre, à la clinique, la mère lui dit « Tu vas aller te reposer au château. » Antoinette lui dit « Tu préférerais peut-être aller en maison de repos ?» Il lui dit « Non, le château c'est très bien. » Amélie jubile. Antoinette se dit qu'elle va perdre Pierre. Et elle, que va-t-elle faire de venir ? Amélie dit à son fils, « Ne te fais pas de soucis, mon petit. Nous allons tout préparer. » et les parents préparent l'installation de leur fils au château. Ils préparent une chambre verte, la chambre verte et claire. Embauche infirmière, masseur, kiné. Les parents partiront avec leur fils en avion. Antoinette regarde tous ces préparatifs sans qu'elle ne puisse rien dire. Elle ne sait même pas si elle est invitée à aller là-bas. Lorsqu'elle va à la clinique avec ses beaux-parents, son mari ne fait pas attention à elle. La mère ne fait que lui parler des préparatifs qu'ils ont faits. Enfin, tout est prêt. Une ambulance va venir prendre Pierre pour le mener à l'aéroport. Le médecin a donné les dernières instructions et fait une ordonnance. Antoinette demande « Est-ce que mon mari est guéri ?» Le médecin lui dit « Oui, il est déjà guéri, mais il a besoin de prendre des forces. » « Est-ce qu'il y aura des séquelles ?»
« Je ne pense pas, mais nous le saurons plus tard. »
« Ou peut-être jamais. Une personne peut avoir des troubles sans que personne ne le sache. »
Amène-lui aux épaules et dit « Bien sûr qu'il est guéri. Voyons. »
Le soir, pendant le repas, Antoinette demande « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars avec vous ?»
Amélie lui dit « Bien sûr, puisqu'il le faut bien, hélas !»
Antoinette lui répond « Merci. »
Auguste lui dit « Nous le faisons surtout, c'est pour notre fils. »
Le lendemain, ils préparent leur bagage. Peu de choses, puisqu'ils ont tout au château, et qu'ils feront souvent le voyage pour Paris à cause des affaires du père. Antoinette téléphone à son patron pour lui dire qu'elle donne sa démission et écrit une lettre de dédite de son appartement à Lyon. Elle est triste. Elle aurait aimé se retrouver seule avec son mari. Mais Pierre n'a pas réagi. Il ne semble pas vouloir être seul avec elle. Elle se dit que peut-être que tous les hommes ont besoin de leur mère après une longue maladie. Le lendemain matin, une voiture les mène à l'aéroport. Et une ambulance emmène Pierre. Un avion privé avec un salon, bar et couchette. C'est un 747 aménagé. L'équipage est au père. Embarque aussi deux infirmières et le médecin, la famille. Pierre est allongé. Sa mère reste près de lui avec les infirmières et le médecin. Le père et sa femme sont dans le salon. Elle dit à son fils, tout en lui tenant la main,
« Oh mon chéri, heureusement que tu as tes parents pour s'occuper de toi. Sans nous, tu serais peut-être en bouillie. Ta femme voulait te faire opérer par des médecins de seconde classe. Ne dis rien. Mais... »
Lui a un regard de reconnaissance. Enfin, ils sont arrivés. Ils ont quitté l'avion et pris un hélicoptère. L'avion a atterri sur une piste le plus près possible du château. Puis, l'hélicoptère les dépose sur la pelouse du château. Une ambulance et des voitures viennent les prendre. Antoinette, en voyant le château, se dit qu'elle va être enterrée vivante. Les voitures et l'ambulance s'arrêtent devant l'entrée du château. Vite les domestiques s'affairent. Sortent le blessé, le malade. En le laissant sur le brancard, Pierre est mené tout de suite dans sa chambre, au premier étage. C'est une vaste pièce. On a mis un lit d'hôpital électrique. Sa chambre est communicante avec les toilettes et salle de bain. On a aménagé une pièce en salon de massage. À côté de sa chambre, il y a aussi la chambre des infirmières, kiné, masseur et bien entendu celle de sa mère. On dépose Pierre dans son lit. Il lui dit,
ne te fais pas de soucis, mon chéri, tu as tout sous la main. T'es tout prêt, j'ai tout préparé. Tu as tout, absolument tout. J'ai même ma chambre à côté de la tienne.
Pierre lui dit, merci, mère, vous êtes un amour.
Antoinette demande, et moi? Amélie lui dit, vous, au troisième étage, dans la tour, voyons.
Antoinette est triste que son mari ne dise rien.
Elle voit que sa mère donne des ordres. Personne ne la regarde pas. Amélie dit à la bonne.
« Amenez cette personne dans sa chambre !»
Et Antoinette est menée à sa chambre. Elle se trouve dans la tour du château, la tour de gauche, au troisième étage, escalier en colimaçon, petit couloir.
Voilà la chambre.
Elle entre. La chambre est petite, mais charmante. Meublée Louis XIII, elle a la vue sur le parc. Et se dit que c'est mieux qu'elle ne le pensait. On aurait pu la mettre dans un cachot. Pourquoi pas? De toute façon, Pierre ne s'en serait même pas aperçu. Pierre est avec sa maman, et c'est ce qu'il veut.
On apporte les valises.
Et Antoinette commence à ranger ses affaires.
L'on frappe à la porte. Entrez, c'est la bonne. Madame, l'on vous attend pour le dîner. Bien, je vous suis.
Et elle suit la bonne,
qui l'amène à la salle à manger du château.
Ses beaux-parents sont déjà à table.
Amélie lui dit, « Venez vous asseoir près de moi. »
Elle va s'asseoir à gauche de sa belle-mère.
Il lui dit, « Il faudra être à l'heure pour les repas. Je n'aime pas manger en retard. »
Antoinette lui fait, « Bien, madame. »
Amélie sonne pour qu'on commence à servir.
Amélie dit à son mari,
« Je trouve qu'il est tout à fait bien. »
Auguste dit, « Oui, il n'a même pas été fatigué pour le voyage. »
Amélie lui dit,
« Je lui ai fait préparer un bon bouillon avec du jus de viande pour qu'il se reprenne des forces. »
« Tu as bien fait. »
Demain commence la rééducation, lui refaire les muscles.
Auguste lui dit,
« Je pense qu'après, je pourrais lui trouver un travail chez nous. Il pourrait m'aider. »
C'était une bonne idée, mon ami.
Antoinette se dit que personne ne pense à lui demander son avis. Elle n'existe même pas pour eux. Ils l'ont effacée.
Il faut que Pierre se rétablisse très vite et qu'il parte d'ici.
Auguste dit,
« Pourrait peut-être s'y habiter définitivement ici. Avec un avion privé, il n'est pas bien loin de Paris. »
Les jours passent. Pierre se rétablit. Antoinette ne le voit jamais seul. Elle s'étiole. Personne ne fait attention à elle. Elle est niée. Elle est effacée.
Elle veut parler à son mari et partir d'ici. Elle ne voit sa belle-famille que pendant les repas et on lui parle. Elle passe ses journées dans sa chambre à lire ou à tricoter. Pierre ne demande jamais sa femme. On dirait qu'il est devenu le petit garçon de sa maman. Il reprend des forces, parle, semble aussi mûri, vieilli. Il lui arrive maintenant de faire de longues promenades dans le parc seul. Ça le détend et le repose. Personne ne lui pose de questions. Il ne pense pas à sa femme, mais il sait qu'il en a eu. Cela lui est indifférent. Le temps passe. Le médecin vient le voir deux fois par semaine et trouve qu'il se rétablit bien. Antoinette trouve que son mari a changé. Il a un autre regard, plus froid qu'autrefois. Elle se dit, il n'est plus le même. Sa famille le trouve redevenu comme avant. Antoinette aimerait être seule avec lui. Il y a toujours quelqu'un près de lui. La journée ne reste plus enfermée dans sa chambre. Il prend ses repas en famille, se détend au salon. Sa mère est aux petits soins avec lui. Le médecin l'a ausculté et a dit qu'il était tout à fait rétabli. On arrête le traitement. Alors, il se promène dans le parc. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.